France Culture.
Bonjour les amis du Book Club, bonjour Jean d'Amérique, bonjour Louis-Philippe d'Alembert. Pour moi, lire cette œuvre poétique complète de De Pestre, c'est un vrai bonheur. C'est vraiment rentrer dans une poésie où tout est là. Même quand son histoire elle est brutale, la langue chez lui, elle reste solaire et réellement souveraine. Il écrit comme si on dansait dans une tempête, quelque chose comme ça.
France Culture, le Book Club, Marie Richeux.
Quelle heure est-il aux horloges de la tendresse, de l'érotisme et de la révolution? Ce sont des cadrans que regarde parfois en face et parfois du coin de l'œil la poésie de René De Pestre depuis des décennies. Né en 1926 à Jacmel en Haïti, il publie son premier recueil en 1945 dans une fougue rimbaldienne qui, si elle prend ensuite de nombreuses formes, ne le quitte jamais. Le recueil est titré Étincelle, il a 19 ans et il refuse de tout son être, je cite, l'abdication de la raison, de la justice devant la force brutale, c'est dire comme c'est d'actualité. Son œuvre est vaste, protéiforme, elle est reconnue et encouragée dès ses débuts par Aimé Césaire ou Édouard Glissant. Elle est lue pour nous aujourd'hui par deux auteurs, Louis-Philippe d'Alembert et Jean d'Amérique, qui sont nos invités à l'occasion de la reparution de ses œuvres poétiques complètes pour évoquer ce parcours littéraire et politique mêlé au soubresaut d'un siècle qu'il a totalement embrassé. Nous sommes ensemble pour une heure, bienvenue à toutes et à tous dans le Book Club, ravi de vous retrouver. Rage de vivre, c'est le très beau titre de ses œuvres poétiques complètes parues initialement en 2006 aux éditions Segers et qui reparaissent cette année à l'occasion du centenaire de la naissance de l'écrivain qu'on salue, chaleureusement, s'il nous écoute. Cette édition est préfacée généralement par l'autrice Yannick Lahens et à chaque fois sont reproduites les préfaces qui étaient parues au moment de la parution des recueils qui sont réunis dans l'ordre chronologique de leur édition. Bonjour Jean d'Amérique.
Bonjour.
Vous êtes auteur, vous êtes musicien, on avait fait entendre ici votre très beau morceau Luciole il n'y a pas très très longtemps. Merci beaucoup d'être avec nous pour évoquer l'œuvre de René De Pestre dans le Book Club, bienvenue.
Merci, un plaisir d'être avec vous.
Ça fait plaisir, partagé. Bonjour Louis-Philippe d'Alembert.
Bonjour.
Vous êtes auteur, vous aussi, vous êtes romancier, poète, vous avez nourri une longue amitié avec René De Pestre, vous lui avez même adressé un poème, on y reviendra, c'était en 1982, et vous le saluiez comme un frère poète admirateur de toujours. Merci beaucoup d'être avec nous pour évoquer son œuvre aujourd'hui. Peut-être qu'on va commencer de parler de vous, comme ça, en tant que lecteur, si vous voulez bien, tous les deux. Au Book Club, on commence toujours comme ça, par faire connaissance avec nos invités en tant que ce sont des lectrices et des lecteurs. Vous n'avez pas tout à fait le même âge. Vous êtes des auteurs qui partagent une terre, mais aussi un territoire littéraire et poétique. Donc vous avez forcément un lien différent avec l'œuvre de De Pestre. Vous rencontrez l'œuvre de René De Pestre comment, Louis-Philippe d'Alembert? Dans quel moment de votre parcours?
Je rencontre très jeune, grâce à des amis poètes, je devais avoir autour de 16-17 ans. Et à l'époque, on vit sous la dictature de Duvalier, donc forcément, un poète comme De Pestre qui vit en exil à Cuba, à l'âge où nous avons tous à l'époque les yeux tournés vers Cuba, qui représentait pour nous un espoir à l'époque. Donc le fait qu'il vive à Cuba, pour moi, c'était quelque chose d'extraordinaire. Et quand j'ai commencé à écrire, jeune journaliste, des critiques, mes premières critiques étaient sur l'œuvre de René De Pestre, quoi.
Et ça circulait dans la jeune génération que vous composiez à l'époque?
Oui, malgré la dictature, ça circulait parce que les deux premiers textes, surtout Étincelle et Végétation de Clarté, avaient été publiés en Haïti. Donc, justement, dans le recueil Étincelle, il y a plein de gens, moi notamment, qui connaissent des poèmes par cœur et tout. Et puis, les autres textes qui ont été publiés à l'étranger, notamment à Montréal, aux éditions Leméac et d'autres, donc on réussissait à les avoir quand même, quoi.
Et alors, qu'est-ce qui vous plaît à vous, Louis-Philippe d'Alembert, puis peut-être aussi à la bande de jeunes qui est autour de vous et dont vous dites que vous partagez cette poésie-là? Qu'est-ce que vous attrapez à ce moment-là? Vous êtes jeune.
Oui, on est jeune. On attrape deux choses, en fait. Je pense c'est l'engagement politique, parce que, encore une fois, on est sous une dictature, on ne pense qu'à la chute de la dictature et qu'à Che Guevara ou bien Fidel, forcément, à l'époque. Et puis, l'érotisme. Donc, c'est-à-dire, c'est les deux, j'ai envie de dire, un peu pilier de son écriture et qui nous intéressait à l'époque, je parle des années, au tout début des années 80 en fait.
Est-ce que vous continuez à lire ensuite et à vous adresser à lui d'une toute autre manière? Et puis puisque vous le saluez en frère et en ami, comment ça se transforme cette relation à son œuvre et peut-être à René De Pestre lui-même?
Ah oui, à René De Pestre lui-même. Non, déjà, il y a Et le fait que je continue de lire et qu'à 19 ans, vous l'avez dit, je lui adresse un poème-lettre à un poète. Mmh. Ensuite, après la chute de la dictature en 86, je viens tout de suite en France. Et donc, j'ai eu la chance à l'époque de faire une interview avec lui. Il travaillait à l'UNESCO. Ça a été le premier et la première interview qu'il avait donnée à un Haïtien. Donc, il va paraître en Haïti et on se rencontre. Je suis tout jeune et je suis intimidé dans ses bureaux de l'UNESCO. Et puis, il y a un lien qui se tisse et je reviens en France, je travaille, mon mémoire de maîtrise, on disait à l'époque, pas master, c'est sur son œuvre. Et donc on est resté liés jusqu'au bout et j'ai eu la chance aussi qu'il m'ait dédié son autobiographie. Donc c'est un lien d'amitié qui a tenu au fil des ans. J'ai été invité par exemple pour ses 90 ans en 2016. À Lézignan-Corbière, où il faisait don de sa bibliothèque à la médiathèque de Lézignan-Corbière. Notamment, sa nièce était présente, qui était à l'époque secrétaire général de l'OIF, Michaël Jean. Donc, on a vraiment gardé le contact de bout en bout. Et je me rappelle, encore une fois, tout à l'heure, vous parliez de Glissant et d'autres, d'une rencontre en 95. Pareil, je suis tout jeune, à Turin. Donc, il y a Glissant, Depestre, Franck Etienne qui sont là. Et puis, donc, moi, je suis un peu en retrait. J'observe et ces trois monstres sacrés. Et Depestre qui, lui, comme d'habitude, il a une verve, il raconte des blagues à n'en plus finir, il fait rire tout le monde. C'était extraordinaire.
En 1982, donc, vous lui adressez ce poème « Lettre à un poète ». Il se trouve, on va y venir tout à l'heure, que beaucoup de ses poèmes sont adressés. On peut parcourir « Rage de vivre » presque comme un répertoire de téléphone ou un répertoire à l'ancienne. Donc parfois, c'est juste un prénom, souvent, par exemple, quand c'est des femmes. Mais sinon, c'est aussi une forme de... comme s'il faisait sa propre bibliographie, comme s'il se présentait à nous avec ses affinités de lecteur, avec ses affinités politiques aussi, son rapport au monde. Cette manière d'adresser ses poèmes à l'autre, c'est bien sûr une grande tradition littéraire, mais pourquoi c'est important quand on parle de Depestre? Est-ce que ça nous dit quelque chose de lui?
Oui, dans son cas précis, oui, par exemple, on parlait d'Étincelle. Quand on prend un poème comme « Je ne viendrai pas ce soir, tissé au fil de ton regard », c'est adressé à Joséphine au tout début. Après, on voit qu'il reprend, c'est Joséphine Baker ou Baker, comme on pourrait dire en anglicisant. Et Joséphine Baker, c'est la sœur de Théodore Baker, avec qui il avait créé à l'époque un journal qui s'appelle La Ruche, avec Jacques-Séphane Alexis et d'autres. C'était un compagnon de combat. Donc on retrouve un certain nombre de traces comme ça, ou quand il adresse à Nicolas Guillen, qui était le poète cubain, avec qui était un très très bon ami, ou Aimé Césaire, ou Édouard Glissant, et tant d'autres. Donc c'est vraiment, comme vous l'avez dit, un parcours de sa vie. Tous les gens qu'il a rencontrés, ou quelqu'un comme Jorge Amado, l'écrivain brésilien, ou Pablo Neruda. Et Pablo Neruda et Jorge Amado, quand Depestre a été chassé de France en 1952, il va dans les pays de l'Est, c'est grâce à Pablo Neruda qu'il va d'abord aller au Chili, ensuite à Jorge Amado qu'il va aller au Brésil. Donc il y a beaucoup d'histoires dans ces dédicaces.
Et ça nous permet aussi, et peut-être qu'on y reviendra un peu plus tard dans cette émission, de comprendre qu'il y a quelque chose de très imbriqué entre le moment poétique et le moment politique. D'emblée, vous avez évoqué, Louis-Philippe d'Alembert, que votre manière de lire Depestre quand vous avez 18 ans, c'est aussi une façon de regarder vers Cuba. Ce sont des aspirations révolutionnaires, communistes. Il y a quelque chose qui est très très imbriqué à ce moment-là.
Oui, et chez lui, les deux sont indissociables. Ça veut dire que c'est Eros et Révolution. D'ailleurs, je crois même qu'il a...
Il y a un poème qui le dit presque littéralement.
Qui le dit, ouais. Eros et Révolution. Donc, c'est-à-dire que c'est vraiment ça. Et lui, quand il part, quand il revient en Haïti, parce qu'il était parti en 1946, il revient en Haïti en fin 1958. Et à ce moment-là, Duvalier-Père est au pouvoir. Et il se rend compte très vite qu'il ne peut pas collaborer avec cet homme-là. Il voit déjà naître en lui le dictateur. Et en janvier 59, il y a la révolution à Cuba. Et là, il est attiré par les sirènes socialistes de Cuba. Et il s'en va. Il va rencontrer, l'histoire en connaît, les Che Guevara ou Fidel Castro. Et puis après, il va travailler dans l'appareil même du système cubain et castriste, du côté culturel. Et il va voyager au nom... Il était ce qu'on avait dit, ce qu'il disait à l'époque, et ce que les Cubains disaient de lui, un cubano más, c'est-à-dire un Cubain de plus. Et donc, il allait, il voyageait toujours. C'est comme ça qu'il a pu aller en Chine, rencontrer Mao Tse-tung, après Chiang Kai-shek. Mais vraiment, il a rencontré le monde entier.
Mmh. Oui, il y a vraiment quelque chose, d'ailleurs, quand on lit tout son... Et tout ça n'est pas dénué de désillusions politiques. C'est-à-dire que tout ce parcours-là, à un moment donné, eh bien, il ouvrira les yeux, lui-même dira qu'il y a quelques aigreurs et qu'il y a des idéaux politiques et révolutionnaires qu'il a embrassés totalement dans ses jeunes années et sur lesquels il va revenir ensuite. Mais c'est vrai qu'il y a une sorte, comme ça, en feuilletant Rage de vivre, une façon de parcourir les âges et le monde qui est presque, oui, un siècle entier, presque d'histoire aussi. Mais on n'a pas du tout mentionné de faits biographiques précis. 1926, c'est sa naissance, Jacques Mel. Dans quel genre de famille il naît, René de Pestre ?
Il naît dans une famille assez, on va dire, petite classe moyenne. Son père est préparateur en pharmacie, sa mère est couturière.
D'où la machine Singer.
D'où la machine Singer qui accompagne toute sa vie. Et puis, c'est pas seulement la sienne, c'est toute une génération, plusieurs générations. Et d'ailleurs, même Aimé Césaire déjà parlait de cette machine Singer dans le cahier d'un retour au pays natal. Et le père meurt. Donc forcément, il se retrouve dans une situation très difficile de précarité. Et ils vivent avec ses frères et sœurs grâce à cette machine Singer.
Lui-même est apprenti tailleur.
Lui-même, donc il n'a pas le choix. Mais très vite, il va monter à Port-au-Prince faire ses études terminales, première et terminale au lycée Pétion. Lycée Alexandre Pétion, et là, il va connaître du monde, il va commencer à écrire. Mais les premières années, après la mort du père, ça n'a pas été des années faciles du tout.
Et la vocation littéraire est immédiate, est évidente.
Ah oui, tout de suite, parce que quand on lit Étincelle, on voit que c'était pas... Bien sûr, c'est le premier recueil, mais on sent déjà qu'il écrivait depuis quelque temps.
Ouais, donc, et une vocation ultra puissante. Qui est pas du tout vacillante, qui est vraiment, je suis là, je vais faire ça, et s'ouvre à moi une vie poétique sur laquelle il ne va pas ensuite transiger.
Ah non.
Jean d'Amérique, quand est-ce que vous découvrez l'œuvre de René de Pestre ?
En fait, j'étais très jeune, il y avait une petite bibliothèque à côté de mon école. C'est là que j'ai commencé à lire réellement, sous l'impulsion de mes profs. Et j'entre dans cette bibliothèque et je lisais tout ce qu'il était possible de lire.
Donc je dis, vous n'êtes pas de la même génération, vous êtes né en quelle année, Jean d'Amérique ?
Je suis né en 94, voilà.
J'aurais pu être son père.
Ouais, voilà.
Mais non, je commence à vieillir maintenant. Mais en tout cas, oui, à l'époque, j'entre dans cette bibliothèque et je commence à lire beaucoup de poésie. Et je tombe sur le journal d'un animal marin.
Qui est l'un des recueils de René de Pestre.
Oui, et j'avais pris une vraie claque littéraire. Et par la suite, je vais me rendre compte aussi, il y a toute une transmission de l'œuvre de Pestre à laquelle j'ai eu accès aussi parce qu'on a cette tradition en Haïti de dire les poèmes à haute voix dans n'importe quel espace. Et je commence à fréquenter... le milieu artistique. Je suis encore au lycée. Hein,
mais À ce moment-là. Et
ouais.
Quand vous dites, je suis conseillée par les bibliothécaires de mon quartier, en face de l'école, parce que vous avez envie de lire de la poésie à ce moment-là.
Alors pas du tout. En fait, j'écoutais du rap. J'écoutais beaucoup de rap et avec des amis de mon quartier et de l'école, on commence à écrire des textes.
Du rap haïtien, vous écoutiez ?
Du rap haïtien beaucoup. Des groupes comme Barricade Crew ou bien Rock Femme, qui étaient les grandes voix du rap haïtien à cette époque.
Donc, milieu des années 90. Non, vous êtes né au milieu des années 90. Ah là là, je m'y perds. Donc, on est plutôt des années 2000.
Oui, là, on est en 2005-2006. Ouais. Je suis tout jeune, je viens d'arriver à Port-au-Prince parce que je viens d'un tout petit village du sud-est d'Haïti. Donc j'arrive à Port-au-Prince et il y a le rap qui est en vogue. On est totalement fasciné par ça, des jeunes qui prennent la voix dans la société. Et on se met à écrire des textes avec mes amis. C'était de très mauvais textes, hein. C'était de l'imitation pure. Mais c'était le début et il y a des profs à l'école du coup qui vont voir des choses que j'écris, qui vont m'encourager et aussi par des choses que je produisais dans les cours de lettres, tout ça, et ils vont m'encourager et c'est ces profs-là qui vont m'amener à lire des bouquins.
Et quand ils vous lisent, ils vous disent va lire de la poésie, ils vous disent lis Depestre et autre chose.
Alors,
c'est Depestre
non,
parmi tout autre chose. Non.
Je découvre Depestre parce que j'entre dans cette bibliothèque et je commence à lire, mais ils avaient pas forcément de recommandations spécifiques. C'était comme il y avait cette bibliothèque vraiment à côté de l'école. Donc, ils m'ont conseillé de faire une carte de cette bibliothèque et pour aller puiser des choses, quoi. Et donc, c'est là, moi, en dérivant dans tous ces rayons. Bon, c'était une petite bibliothèque. J'avais fait très vite le tour du rayon poésie. Mais c'est en dérivant dans cette bibliothèque, je lis à cette époque Franck Étienne et beaucoup d'autres auteurs et René Depestre aussi. Et je pense que ça m'avait marqué à l'époque parce que ces poèmes sont quand même, étaient très parlants pour le jeune que j'étais, dont la colère grandissait déjà. Je vivais dans des milieux qui étaient quand même très marqués par des injustices sociales, par des violences, et donc je retrouve l'écho de ma voix chez Depestre tout de suite. Et dans cette émulation artistique où je rentre à Port-au-Prince, je commence à fréquenter des lieux et partout on dit des poèmes. Parfois on est dans un café et tout d'un coup quelqu'un se lance avec un poème. Donc il faut savoir répondre par un poème. Donc on connaît beaucoup de poèmes par cœur. Et donc il y a beaucoup de poèmes de Depestre qui sont devenus célèbres en Haïti.
Parce que ça circulait comme ça.
Mais qu'on n'a pas lu dans un livre, forcément. Ça circulait comme ça par la parole. Donc voilà, il y avait beaucoup d'échos chez moi et je pense que depuis, je suis resté accroché à cette œuvre.
Que vous avez découverte plus en profondeur.
Oui, donc j'ai découvert plus en profondeur parce que je commence à aller lire ses autres livres. Plus tard aussi, je lis sa prose, ses romans. Je baigne vraiment dans cette œuvre et ça continue encore de m'accompagner. C'est un des auteurs que je relis beaucoup, en fait, parce que il y a un mouvement dans son œuvre. C'est presque comme lui, il écrivait, en fait. Il reprenait ses poèmes beaucoup, il les réécrivait. Il y a je ne sais pas combien d'anthologies. Donc, il y a un mouvement comme ça où il retraverse ses œuvres. Et moi, je crois que comme lecteur, je fais ce même chemin-là aussi. Je relis beaucoup Depestre et à chaque fois, il y a vraiment la jeunesse, la fulgurance de ses poèmes, l'urgence. Elle est toujours présente, quoi.
Ce qui est intéressant, c'est que finalement, on est au début de cette émission encore, Louis-Philippe d'Alembert et Jean d'Amérique, et l'un et l'autre, vous évoquez la découverte de René Depestre dans votre jeunesse, pas au même moment, mais qui vous attrape presque pour les mêmes raisons, et aussi qui circule dans des générations. On est capable de dire, vous le disiez, Louis-Philippe d'Alembert, des poèmes à haute voix. Ça, peut-être, ça raconte quoi de cette île et de son rapport avec la poésie, Louis-Philippe d'Alembert?
Mais Jean le disait tout à l'heure, c'est un pays où on a une très très forte tradition de poésie. C'est-à-dire que on connaît tous et toutes des poèmes par cœur, on a appris un certain nombre de poèmes, et ça a été bien dit aussi, il y a des poèmes qu'on connaît sans les avoir lus dans les livres, parce qu'on a entendu les autres les dire, et puis donc on a appris, on a répété. C'est très très rare qu'il y ait une rencontre, même parfois entre amis plus ou moins, et que ça ne se termine pas par des déclamations de poésie ou de poèmes comme ça, et tout le monde dit des poèmes. C'est un vrai sport national, hein. Et la plupart d'entre nous, on va dire la très grande majorité des écrivaines et des écrivains haïtiens, a commencé par écrire de la poésie, parce qu'on a lu de la poésie, et parce que, et tout à l'heure, j'ai utilisé un autre mot qui est important à mon sens par rapport à Haïti, c'est l'urgence. Et la poésie, c'est aussi en grande partie l'écriture de l'urgence. Donc, et là, tout de suite, on est pris dedans, on le dit, on a l'impression, les textes de Depestre, même quand il s'agit de la génération de Jean d'Amérique, c'est-à-dire troisième génération, Depestre est né en 26, lui en 94, ça fait presque 60 ans. Ouais. Mais il y a toujours cette urgence qui est là, des textes qui leur parlent alors que 60 ans sont passés. Mmh. Donc on est dans cette urgence à la fois historique et politique dans le pays, et l'urgence que représente la poésie elle-même.
Oui,
et
la rage de vivre au sens, oui,
vivre, justement, dans elle n'est pas texte, tout à fait
forcément historique au sens où historicisé avec une date. Il y a quelque chose qui transcende, qui est vraiment du côté de la condition. On va écouter un poème qui s'appelle « Me voici ». C'est le premier, c'est issu du premier recueil de René de Pestre, et c'est lu par lui-même quelques années plus tard, puisque c'est en 2018 pour RFI.
Me voici, citoyen des Antilles. L'âme vibrante, je vole à la conquête des Bastilles nouvelles. Je glane dans les champs ensoleillés des moissons d'humanité. J'interroge le passé, je mutile le présent, j'enguirlande l'avenir. Tout mon être aspire au soleil. Me voici, fils de l'Afrique lointaine, partisan des folles équipées. Je cherche la lumière, je cherche la vérité. Je suis amoureux de l'âme de ma patrie. Me voici, nègre aux vastes espoirs. Pour lancer ma vie dans l'aventure cosmique du poème, j'ai mobilisé tous les volcans que couvait la terre neuve de ma conscience. Et j'ai renversé par un pompeux coup d'état toute la discipline nuageuse de mon enfance. Me voici pour les terres. Je sens gronder en moi la respiration des foules. Je sens vibrer en moi la rage des exploités. Le sang de toute l'humanité noire fait éclater mes veines bleues. J'ai fondu toutes les races dans mon cœur ardent. Me voici, poète, adolescent, poursuivant un rêve immense d'amour et de liberté.
C'est le premier poème de son premier recueil. Il s'appelle Étincelle et on est en 1945. Il y a aussi une façon avec ce titre-là, Me voici, de se présenter au monde et de faire presque une sorte de poème programmatique. Qu'est-ce qu'on peut attraper, Louis-Philippe d'Alembert, dans ce poème-là, qui peut nous permettre ensuite de circuler, puisque tout à l'heure, Jean d'Amérique disait à juste titre que c'est intéressant de circuler dans l'œuvre complète. Est-ce qu'il y a là déjà des motifs qui nous permettent de presque de lire jusqu'au dernier recueil paru en 2005 et qui sont réunis ici?
Oui, on trouve déjà, en l'écoutant dire le texte, là, avec Jean d'Amérique, on se regardait, il y a des expressions qui, moi, m'ont marqué dès le début. J'enguirlande l'avenir. Ouais. Moi, ça m'avait paru à l'époque où je le lisais, et puis où il va renverser par un pompeux coup d'État. Mmh. Donc, nous, à l'époque, on rêve de coup d'État contre Duvalier. Et c'est quelque chose qui est là. Et puis, le motif césarien. Mmh. Le me voici, qu'il a emprunté en partie à Aimé Césaire, et qu'on retrouve là, qui est chez lui, et qu'il continue, et qu'on va retrouver beaucoup plus tard dans d'autres textes. C'est vraiment, il y a une forme de continuité dans l'œuvre de Pestre et dès le début, et même si ça a évolué beaucoup, à un moment donné, mon 19, et là, quand on se rend compte, ce texte a été écrit, il avait 19 ans. Ouais. En fait, c'est extraordinaire.
Ouais.
Et on n'a pas idée de ce que ça peut représenter. Donc moi, j'aurais payé pour écrire un texte comme ça à 19 ans. Et c'est vraiment... On retrouve beaucoup de motifs. Donc il y a la révolution qui est déjà là. Et il y a et l'humanisme de Pestre qui est là aussi. Donc
La révolution et la poésie qui sont mêlées, puisque il dit c'est mon coup d'État qui renverse tous les credos nuageux de mon enfance, mais il y a aussi l'idée que la révolution, elle est aussi très personnelle ou très langagière ou très poétique d'emblée, d'une certaine façon.
Oui, je pense que ce premier recueil, c'est clairement un projet politique que de Pestre qu'il ouvre, en fait. On le voit même, je relisais... l'introduction qu'il a fait à ce recueil, il le dit clairement que dans l'époque où il vit, on a besoin de comment dire donner son sang à cette époque, donner sa voix à cette époque, et c'est comme s'il prend la décision d'être poète pour parler au monde,
absolument, ouais.
Pour être témoin de son époque. Et on le sent dans ce poème, c'est comme si ça va être vraiment les bases de tout ce qu'il va écrire par la suite, en fait. Il y a, Louis-Philippe d'Alembert a parlé de, d'humanisme. Il y a vraiment aussi ce désir-là de, d'une ouverture, c'est-à-dire sa lutte va s'inscrire d'abord en Haïti, mais ouvert sur le monde. On voit que c'est quelqu'un qui a envie tout de suite d'embrasser le monde, littéralement. Ce qui va expliquer peut-être tous ces...
ses engagements politiques.
Ses engagements politiques partout dans le monde, en fait. Il y a son recueil suivant, je crois, il va dédier à tous les antifascistes, par exemple. En fait, il y a vraiment une intention d'aller vers le monde.
Mais ça, c'est quelque chose. Est-ce que ça, c'est quelque chose qui a trait à l'époque où on pense les choses justement à cette échelle-là, universaliste, internationaliste, ou est-ce que c'est quelque chose qui a trait avec un élan poétique propre à De Pestre, ou un peu des deux?
Oui, un peu des deux, je dirais. Mais en même temps, De Pestre, c'est l'homme de son époque, de son temps, j'ai envie de dire. Donc, Jean parlait de projet. Donc, il y a un projet poétique, il y a un projet esthétique, il y a un projet idéologique aussi dans ce recueil-là, ou dans ces textes-là, dès le début. Et puis, il y a, quand il dit « Me voici fils de l'Afrique lointaine », donc il y a la négritude, et c'est son époque, c'est sa période, toute cette négritude. Et puis, il y a le surréalisme qu'il embrasse avec Césaire, donc négritude et surréalisme. Et puis, l'ouverture au monde dont j'en parlais, c'est moi, les premières fois où j'ai entendu parler de Antonio Gramsci, par exemple, de Matteotti, c'est chez De Pestre. C'est-à-dire donc qui ouvre déjà sur des socialistes italiens. Donc moi, je savais pas du tout qui c'était ces gens-là. Donc c'est grâce à lui.
Qu'il les lit ou parce qu'il les rencontre?
Non, il les a pas rencontrés, mais il les a lus. Gramsci, comment dire, Matteotti. Donc il les a lus. Et il en parle. Et ça, c'est quelque chose qui nous ouvre des perspectives extraordinaires. C'est-à-dire, on est dans notre petit bout d'île de la Caraïbe, on entend parler et de gens. On dit, mais c'est qui ces gens-là? Mais c'est grâce à De Pestre. Donc, il y a une ouverture déjà sur le monde extraordinaire.
On va écouter une deuxième archive de René De Pestre. On est cette fois-ci en 1991. Et précisément, il discute là de cette double condition politique et poétique.
Je voulais être un homme d'action, et ça peut-être été l'un des grands échecs de ma vie, n'avoir pas réussi à concilier à la fois le poète et l'homme d'action. Mais je crois que c'est pas mon problème personnel, c'est que dans les sociétés même de notre époque, on ne fait pas une grande place à la poésie. Donc l'homme d'action, que je suis resté encore malgré tout, a failli être truqué. Le poète a failli être truqué par les mécanismes de la roue politique, si je peux dire, et c'est en m'éloignant de l'action que j'ai pu préserver la poésie en moi.
Bonjour les amis du Book Club, bonjour Jean d'Amérique, bonjour Louis-Philippe d'Alembert. Alors pour moi, lire cette œuvre poétique complète de De Pestre, c'est un vrai bonheur, c'est vraiment rentrer dans une poésie où tout est là. Alors ma question à tous les deux, c'est qu'est-ce que c'est pour vous cette chose si singulière qui, chez De Pestre, lui permet d'être à la fois faire de la poésie un acte de résistance et en même temps un acte de jubilation. Merci pour votre réponse et merci le Book Club.
Merci à vous, Edouard, pour cette question. Alors, on entend d'abord une archive de 91 de Pestre qui fait état de son échec. J'aurais voulu être un homme d'action politique, mais finalement, j'ai préservé cela au profit de mon action poétique. Et Edouard, qui vous demande, Jean d'Amérique et Louis-Philippe d'Alembert, pourquoi est-ce que c'est à la fois résistance et jubilation? Comment il tient les deux, finalement?
Je crois que la poésie de René De Pestre, tout de suite, elle est très ancrée. C'est-à-dire que c'est une poésie qui a sa source dans le réel. Donc, il est tout le temps activé par ce qui se passe autour de lui. Pour moi, c'est déjà une forme d'action, mais je comprends quand il parle de l'homme d'action qu'il aurait voulu être, parce que je pense qu'il a tenté de... Il s'est rallié à beaucoup de causes, et je pense qu'il rêvait que quelque chose se passe plus concrètement dans la réalité pour transformer quelque chose, notamment... en Haïti, où il y avait la dictature. Donc, c'est peut-être même pas des échecs forcément, parce que moi, dans la voix de René De Pestre, dans sa poésie, je retrouve du carburant pour ma propre révolte. Donc je pense que...
C'est quoi comme carburant que vous retrouvez, Jean d'Amérique? C'est quoi exactement? C'est à quel carburant de sa poésie que vous vous abreuvez?
Sa colère, elle est mienne aussi. Je pense que c'est important parce que comme il a commencé à écrire très tôt, et on sent qu'à cette période-là, sa colère, elle est vive, sa rage, elle est vive. Et c'est important parce que à cet âge-là, on n'est pas encore aguerri à une vie rangée. On n'est pas encore tenté tellement par une vie rangée qui fait que...
Quoi, la révolte s'éteindrait un peu?
La révolte... Ben, la révolte n'est pas une... n'est pas comme un deuxième travail auquel on pointe tous les premiers dimanches du mois, place de la République. Là, il veut tout de suite changer le monde. Et je pense que sa poésie transmet cette chose-là. Et en même temps, je pense que cette révolte-là, elle n'est pas toujours frontale. C'est ce qui est intéressant. Et du côté de la jubilation, c'est-à-dire que il veut être humain totalement. C'est-à-dire il regarde autour de lui, il y a des balles qui chantent, il va le dire, il y a le ciel qui est beau, l'horizon qui est beau, il va le dire. Aujourd'hui, il écrit un poème où il s'adresse à l'ONU, où il s'adresse au Palais National.
Il y a un poème du début d'ailleurs où il passe des coups de fil. Il est hyper drôle et très beau, très grave ce premier poème où il dit allô quoi.
Appel téléphonique en 1945, quelque chose comme ça. Allô et Palais National, un poète à l'appareil. Les quatre libertés de l'ONU, c'est pour quand en Haïti, quelque chose comme ça. Donc il écrit des poèmes comme ça qui sont dans une adresse très frontale. Et le lendemain, il écrit un poème où il regarde un arbre et il dit sa beauté simple. Donc je pense que c'est tout ça aussi qui fait l'être humain. C'est tous ces versants de la vie. Je pense qu'il a su capter dans sa poésie ces deux versants-là. Et ils sont complètement complémentaires.
Est-ce que vous vous entendez, Louis-Philippe d'Alembert, dans la voix de René de Pestre en 1991? Ou plutôt, qu'est-ce que vous entendez quand il dit « j'ai échoué à être l'homme d'action que je voulais être »
Mais je comprends tout à fait, parce que justement, en écoutant Jean d'Amérique qui parlait d'enracinement, il est doublement enraciné. C'est-à-dire, c'est un homme de sa génération où la plupart des intellectuels, des écrivains sont des hommes d'action, et, ou parce qu'ils se sont intéressés à la politique, ou bien parce qu'il y en a qui sont devenus ministres, qui ont travaillé dans des gouvernements. Mais
il aurait aspiré à ça?
Et je ne sais pas s'il aurait voulu être ministre à quelque chose, mais il aspirait à la révolution. Et n'oubliez pas, De Pestre est né en 26. Avant De Pestre, il y a une figure très importante de la littérature haïtienne qui est Jacques Roumain. Jacques Roumain,
gouverneur de la Rosée.
Gouverneur de la Rosée, mais qui est le fondateur du premier parti communiste haïtien. Donc il est né en 1907 et il va créer le premier parti communiste haïtien. Donc il va aller à Cuba, il va aller au Mexique, comment dire, notamment, ou au Chili et tout le reste. Donc c'est-à-dire que c'est vraiment des hommes d'action. Et à l'époque, et Jacques-Stéphane Alexis, son camarade de combat, Jacques-Stéphane Alexis est né en 1922, et Jacques-Stéphane Alexis va venir dans une tentative de guérilla en 61 contre Duvalier et mourir à cette époque-là. Et on n'a jamais retrouvé les traces de Jacques-Stéphane Alexis.
Oui, c'est pas théorique quand on dit un homme d'action.
C'est vraiment pas théorique, c'est-à-dire Jacques-Stéphane Alexis, c'est le fondateur du Parti d'Entente Populaire. Donc ce sont vraiment des hommes d'action, et lui, il aurait voulu l'être. Et je pense que c'est un regret sincère. Et par rapport à ça...
Mais il aurait trop fallu sacrifier la totalité de son humanité qui passe par la totalité de son rapport à la poésie, ce serait ça?
C'est ce qu'il dit, mais en même temps, quand on prend quelqu'un comme Jacques-Stéphane Alexis, qui est mort à 39 ans, il a laissé une œuvre importante aussi. Il a eu le temps, tout en étant dans l'action. Donc c'était des gens qui avaient, je ne sais pas où est-ce qu'il trouvait l'énergie pour faire, parce que Jacques Stefanexy, par exemple, il était à la fois médecin, neurologue, et il faisait de la politique et il écrivait. Mmh. Et donc, c'est des gens qui devaient dormir 3-4 heures. Et donc, je pense que Depestre, vraiment, en disant ça, il est sincère. Il y a ce regret-là.
Il dit ses limites, presque, d'une certaine manière. Ouais.
Oui, c'est. Mais en même temps, il est dans l'enracinement, quand je parle double enracinement, dans l'enracinement par rapport au réel, par rapport à Haïti, et pour répondre à la question d'Edouard,
oui.
Il y a ce côté à la fois très, très créole dans les combats qu'on a en Haïti, c'est-à-dire que c'est toujours des combats où on chante, où on danse, entre guillemets. C'est-à-dire les manifestations en Haïti, c'est pas, on ne marche pas tranquillement pour dire solidarité, mm-hmm. c'est fini. C'est-à-dire que les gens marchent, les gens chantent, les gens improvisent des chansons, et il y a toujours une forme d'action, et quelque chose de presque poétique dans le fait de se révolter, et Depestre, il le dit avec sa poésie. En fait.
Donc c'est là où on répond à Edouard quand il dit à la fois résistance et à la fois jubilation.
Jubilation.
On va écouter un nouveau poème tiré d'un journal d'un animal marin paru en 1964. C'est le premier recueil que vous sortez de la bibliothèque Jean d'Amérique, et le poème s'appelle « Sur la mort ». C'est la tombée du jour sur mon balcon. Ma propre mort est en face de moi. Nous voici qui bavardons à voix basse, comme des oiseaux, sur la même branche verte de l'infini. Dans les yeux de ma mort, je vois s'éloigner un long train de nuit. Ma jeunesse est sa fumée. Mes amours sont des mouchoirs, agités par des mains de rêve. Nous regardons la ville nôtre, arbres, maisons, êtres humains, animaux. Pierre, étoiles, ont une peau commune dont la douceur nous fascine jusqu'aux larmes. Nul n'est encore un homme tant qu'il n'a pas vu une fois au crépuscule sa propre mort à ses côtés, pleurer de joie face à la beauté du monde. La Havane, 13 juin 1963. Un book club consacré à l'œuvre poétique de René Depestre à l'occasion de la reparution de ses œuvres poétiques complètes « Rage de vivre » aux éditions Segers. Je viens de lire un poème qui s'appelle « Sur la mort » et qui fait partie donc de ce recueil paru en 1963, journal d'un animal marin, que vous aviez noté aussi, Jean d'Amérique, et que vous désiriez entendre, notamment pour évoquer sa quête esthétique, sa quête de la beauté. Moi, il y a un mot aussi que je trouve très récurrent dans toutes ces œuvres complètes, c'est un rapport à la tendresse, qui est une sorte d'au-delà de l'érotisme encore, et tendresse qui, là aussi, a une forme politique et esthétique, quoi. Est-ce qu'on peut essayer d'évoquer la manière dont sa poésie, c'est aussi sa poursuite de tout cela?
Oui, ça se voit dans ces textes qu'il y a une quête, même, je dirais, radicale de beauté, dans le langage, mais aussi dans la vie, tout simplement. C'est comme je disais tantôt, il veut être humain totalement. Et la beauté, c'est une forme de révolte pour lui aussi. La tendresse, c'est une forme de révolte pour lui, parce que c'est une manière de s'opposer à la violence du monde. C'est cette affirmation constante de beauté, c'est une manière de résister à la violence du monde. Et on le retrouve vraiment
qui n'est pas naïve.
Hein?
Et qui n'est pas naïve.
Qui n'est pas naïve, oui, justement, c'est comment dire, c'est une quête active, en fait. C'est une quête active, c'est pas une évasion, c'est pas pour ne pas voir la réalité, mais au contraire, c'est pour l'affronter mieux. Et d'ailleurs, on voit dans certains poèmes, pendant qu'il tente de chanter la beauté, de chanter l'humain, il fait des... Comment dire,
il est comme rattrapé par...
Voilà, il est rattrapé par le motif de la révolte quand même. On citait le poème tout à l'heure, « Je ne viendrai pas ce soir », c'est ce qui se passe. Il parle d'amour, mais il est rattrapé par le désir... De révolution. Donc, c'est une quête de beauté active et révolutionnaire aussi, en fait.
Et c'est intéressant que vous répétiez ce mot de totalité, Jean d'Amérique, parce que là, il dit de toute façon, cela a une peau commune. Les étoiles, les pierres, la nuit, ma mort. Ouais. Et d'une certaine manière, c'est tout ça qui est pris dans une peau commune qui serait peut-être le réel. Vous avez dit ça aussi tout à l'heure, Louis-Philippe d'Alembert.
Oui, et là, on retrouve vraiment une forme d'apaisement quand il parle, c'est pour cela que je parlais d'humanisme, quand il parle de tendresse, ce n'est pas par hasard d'ailleurs que son autobiographie s'appelle « Bonsoir tendresse ». Et là, on a l'impression que l'homme d'action qu'il aurait voulu être, l'homme qui était dans la révolution, dans la et quelque chose de rageant, où il a beaucoup de colère, mais là, tout de suite, il y a une forme d'apaisement, de douceur, et qu'on trouve dans le poème que vous venez de lire, par exemple. Et c'est quelque chose qui est là, et où il se confronte, où il redevient humain. Ce n'est plus l'homme pris dans une époque donnée, ce n'est plus l'homme qui rend hommage à un certain nombre d'hommes politiques, hein, de poèmes qu'il a peut-être regretté.
Mmh. Et dans ses adresses, oui, dans ses hommages.
Ces hommages-là. Et puis, là, maintenant, on retrouve quelque chose qui échappe au temps. Et quand il parle de tendresse, il parle d'amour. C'est vraiment quelque chose qui échappe au temps. Il y a une forme vraiment d'apaisement chez lui, dans ce cas-là.
Et à chaque fois, quand je dis c'est à la fois pas naïf et c'est apaisé, certes, mais c'est très agissant. Par exemple, quand il dit qu'il déclare un état de joie et qu'il parle de la joie de vivre, c'est aussi un outil d'être au monde où je sais pas si c'est la révolte qui continue d'être là dans la joie de vivre, mais en tout cas, c'est un état très éveillé. Voilà, pour utiliser des mots d'aujourd'hui, c'est un état très éveillé, la joie comme un outil politique, d'une certaine manière.
Oui, oui.
Oui, j'allais juste mentionner, il y a un petit livre qu'il a écrit, qui fait partie de l'anthologie, qui s'appelle « État de poésie », où il développe vraiment tout ça. C'est presque comme un manifeste.
Un petit essai.
Oui, enfin, c'est des poèmes en prose, mais c'est comme un poème manifeste où il expose tous ces versants qui traversent sa poésie, à la fois comment l'état de poésie nous met dans cette quête de beauté, comment on entre dans le désir d'action aussi, tout ce dont on est en train de parler là, je pense dans ce petit livre il le dit avec beaucoup de justesse.
Ce désir d'action qui est très proche aussi du désir, quand vous parlez du « je ne viendrai pas ce soir » où il a un rendez-vous auquel il ne se rend pas, rendez-vous amoureux ou sexuel auquel il ne se rend pas, mais pour faire la lutte en gros, pour se battre, Louis-Philippe d'Alembert, on sent bien que ce sont des énergies complètement en symbiose en fait. Le désir charnel et le désir de révolution, ça va complètement ensemble dans sa poésie.
Ah oui, mais dès le départ. C'est-à-dire que ce texte-là dont on parle, que tout le monde connaît par cœur...
Alors allez-y pas,
c'est extraordinaire. C'est-à-dire, je ne viendrai pas ce soir tisser au fil de ton regard des heures d'abandon, de tendresse, d'amour. Tes camarades de bronze ont convié ma jeunesse à l'assaut de cette citadelle qui s'écroule. Je ne viendrai pas noyer ma solitude dans le flot tumultueux de tes cheveux d'ébène, une étoile de pourpre luite à l'horizon. Je ne viendrai pas mirer mon fol espoir dans le cristal de tes prunelles sauvages, car quel sens donner à nos baisers, à nos étreintes, à ce soir brûlant de fièvre, si notre amour reste indifférent aux appels désespérés de la souffrance humaine. Il écrit ça à 19 ans, c'est extraordinaire, c'est-à-dire que on a tout, justement c'est ce que Jean disait là, le Eros et Révolution, les deux sont là, mais il va, à l'époque, justement il est jeune, et le désir de révolution prend le pas sur le désir charnel.
Ce qui va s'inverser d'une certaine manière, puisque vous parlez de cette autobiographie qu'il nomme « Bonjour tendresse », assez malicieux comme titre, ça veut dire qu'il y a quelque chose qui va être délaissé du côté de l'ambition révolutionnaire pour embrasser une ambition plus érotique, mais au sens d'un érotisme de la vie, pareil, là aussi, total ou totalitaire, Louis-Philippe d'Alembert.
Il a dit des choses comme ça, par exemple, justement, vous avez parlé, et il a écrit un texte qui s'appelle « Bonjour et adieu à la négritude », où il dit adieu à un certain nombre de choses.
Parce qu'ils discutent beaucoup. Il a une amitié intellectuelle et une amitié sincère pour Césaire, mais oui. La question de la négritude n'est pas du tout un endroit qu'il embrasse totalement et sans le discuter.
Il l'a embrassé au départ, et puis quand il a vu, comme il le dit lui-même dans « Bonjour et adieu à la négritude », ce que ça a donné, par exemple, notamment en politique en Haïti, avec Duvalier-Père, qui avait pris le pouvoir au nom d'une certaine négritude quand il a vu ce que ça a donné dans certains pays d'Afrique. Et là, il a pris ses distances avec... on va dire, ce n'est pas une idéologie, pour moi, c'est plus une esthétique, une idéologie, mais il a pris ses distances avec tout ça. Et puis, par la suite, il va écrire « Bonsoir, tendresse ». C'est, donc, « Bonjour et adieu à la négritude » et « Bonsoir, tendresse ». C'est un livre autobiographique où c'est vraiment, on sent qu'il règle des comptes, pas avec les autres, mais plutôt avec lui-même, avec son propre parcours d'être humain, d'individu. Et il renonce à un certain nombre de choses, tout comme il a renoncé à Cuba à un moment donné, alors qu'il avait embrassé Cuba à bras le corps, mais quand il a compris que dans ce système-là, il y avait un certain nombre, que les droits humains n'étaient pas toujours respectés, ou que les gens n'avaient pas la liberté de parole, alors que Fidel Castro avait dit tout dans et pour la révolution. Et il y a eu, dans le cas de Cuba, une affaire où il s'est opposé aux apparatchiks du système de Héberto Padilla, qui était un poète cubain qui a été mis de côté par le régime. Et c'est là qu'il a commencé à prendre ses distances jusqu'à venir revenir en France en exil, en fait.
Et de la même manière, il écrira dans ses textes des passages sur Staline et ses errements, dont il disait que c'était ses errements personnels qui, imbriqués à des errements idéologiques, mèneraient au pire. Il y a une... Tout à l'heure, je faisais un petit mot d'esprit en disant que ce recueil qui, en 1945, alors qu'il a 19 ans, refuse de tout son être l'abdication de la raison, de la justice devant la force brutale, quand on le lit au tout début du mois de mars 2026, ces mots-là, il y a une manière aussi un peu vertigineuse de s'en emparer et d'être tremblant de ces mots-là, sans vouloir étirer les époques et les superposer pour rien, parce que ça sert à rien, Louis-Philippe d'Alembert, mais tout à l'heure, Jean d'Amérique disait, je trouve dans la révolte de René de Peste, quelque chose qui nourrit de manière très contemporaine la mienne. Est-ce qu'il y a quelque chose dans son rapport à la politique et à l'ordre brutal du monde que lui, il décrit, ok, années 50, années 60, qui peut-être peut nous être utile ou peut nous être éclairant pour aujourd'hui ?
Oui, c'est ce que j'en disais, hein, c'est cette colère-là qui est, j'ai envie de dire, saine. C'est dont, justement, on a besoin, avant qu'on s'embourgeoise, même si l'Amérique n'a pas utilisé ce mot, et avant qu'on s'embourgeoise, il y a cette colère qui il n'y a pas d'autre mot, hein, d'autre qualificatif, une saine colère qu'on sent dans la poésie et qui nous parle, qui parle à plusieurs générations, qui parle encore à des jeunes et qui ont peut-être 20 ans ou 25 ans aujourd'hui. On leur lit des poèmes en Haïti, par exemple, des poèmes de Depestre, où moi, il m'est arrivé ici en France d'intervenir dans des lycées, j'imagine que ça doit être la même chose pour Jean, dans des lycées et dans des collèges, où je lis des extraits de René Depestre, et les jeunes, on les voit tout de suite attentifs à ce qu'ils entendent, pardon. Donc c'est encore là, cette colère-là. Moi,
je et en même temps, il est très, réaliste, puisqu'il peut écrire dans un texte titré « Que peut la poésie dans un monde en crise ?» La première phrase, c'est « Permettez-moi d'emblée de vous rassurer, la poésie ne fait pas scandale à l'UNESCO. » C'est-à-dire qu'il n'est pas non plus, naïf sur ce point-là. On va écouter une archive de lui. On est en 1967. Il dit connaître, avec ses camarades poètes haïtiens, plusieurs formes d'exil, dont un exil langagier.
Tout Antillais nègre, n'est-ce pas, est un exilé, et parfois même doublement ou triplement exilé. Moi, par exemple, écrire pour moi, c'est me battre dans une certaine mesure avec la langue française. C'est pas ma langue maternelle, n'est-ce pas, j'ai des difficultés avec les formes d'articulation du langage français, n'est-ce pas, parce que ma langue originelle, c'est le créole, le patois qui est parlé, la langue qui est parlée en Haïti. Mais le français est une langue de culture, c'est aussi, nous la revendiquons comme telle, c'est aussi la langue nationale d'Haïti, mais une langue que nous devons, un outil que nous devons apprendre à manier, n'est-ce pas? Pas comme le jeune français, le petit français qui naît, il trouve le français chez lui, dans sa maison, dans le berceau, c'est pas notre cas, n'est-ce pas? Il nous faut nous ruer sur le langage, nous battre avec la langue, ou faire l'amour avec la langue, n'est-ce pas? Mais de toute façon, il s'agit de rapports parfois difficiles, n'est-ce pas? Il y a des conflits, ce ne sont pas des rapports immédiats, je veux dire, n'est-ce pas? C'est pas une donnée immédiate de la conscience, c'est qu'une acquisition parfois douloureuse.
1967, on remonte un petit peu le temps, mais c'est intéressant quand même de parler de sa condition d'exilé. Donc vous l'avez dit, il doit quitter Haïti, mais là il parle d'un autre exil qui serait celui d'écrire en français alors qu'il est créole. Qu'est-ce qu'on trouve comme trace? Et juste avant l'émission, vous disiez l'un et l'autre, ouais, mais en même temps, il écrit jamais en créole. Qu'est-ce qu'on trouve comme trace de cet exil langagier, d'après vous, dans ces poèmes?
Moi, je pense que bon, c'est vrai que les écrivains haïtiens sont beaucoup traversés par cette question encore aujourd'hui, hein, même si la plupart des écrivains haïtiens maintenant écrivent quand même dans les deux langues, écrivent en français et en créole. Donc, c'est plus la même tension peut-être, mais chez De Pestre, on sent quand même il y a les racines de la langue créole dans le français qu'il écrit. Parce qu'il y a beaucoup d'incursions, soit d'expressions ou bien d'une mémoire en fait haïtienne, d'un imaginaire haïtien qui ne peut pas s'empêcher de surgir à chaque fois dans.
Et de quel côté de l'imaginaire, par exemple?
Dans des choses qui ont à voir, par exemple avec la mythologie vaudou haïtienne, le paysage caribéen. Ça vient vraiment bousculer sa langue et créer une autre musique dans la poésie qu'il écrit en français. Donc je pense que sa poésie reste quand même avec un bruit de fond créole, si vous voulez. Mais c'est vrai que c'est habiter un autre espace que d'écrire dans une autre langue, parce qu'on... On voyage, après, ce qui n'est pas forcément négatif, parce que comme écrivain, la langue devient un outil aussi. On peut l'envisager de cette manière-là. Moi, aujourd'hui, j'écris beaucoup plus en français. J'entretiens quand même un rapport régulier avec le créole. J'écris aussi en créole. Mais il y a cette, comment dire, il y a cet ancrage dans un imaginaire haïtien qui est l'imaginaire premier, même si on ouvre...
Et qui demeure, y compris dans son transport vers la langue française.
Oui, même sans faire exprès.
Hein. Ouais.
Mais même sans faire exprès, ça surgit parce que c'est là, la langue, ça passe par le corps, c'est-à-dire le français qu'on a appris dans les livres, ça passe par notre corps avant d'aller sur une page, je crois. Et donc, elle est transformée, cette langue.
Est-ce que c'est aussi là l'idée d'un homme de son temps, finalement? René De Pestre, il écrit en français. Aujourd'hui, peut-être la question, comme le dit Jean d'Amérique, elle s'est déplacée, la possibilité des autrices et des auteurs d'écrire ou de publier en créole. C'est pas la même chose pour De Pestre?
Non, parce que, encore une fois, De Pestre, on l'a dit, n'a jamais écrit en créole. Donc il a toujours écrit en français. Donc c'est un homme de son temps. Et c'est un homme aussi...
Mais parce qu'il n'aurait pas pu. C'est ça le fond de ma question. C'est-à-dire qu'à ce moment-là, comme si ça ne se faisait pas.
Ça s'était fait un tout petit peu au début, au milieu du 19e siècle, par quelqu'un comme Oswald Durand, par exemple, qui a laissé des textes. Et vers la fin du 19e, début 20e, on va trouver quelque chose qui est de l'ordre de bousculer la langue française avec le créole.
Avec le bruit de fond du créole.
Avec le bruit de fond du créole. Donc, c'est-à-dire, et même la structure même. C'est-à-dire que, introduire des expressions complètement créoles, ou bien le fait pour dire qu'il a beaucoup marché, au lieu de dire qu'il a beaucoup marché, on va dire qu'il a marché, marché, quelque chose qui est très créole. Mais on trouve ça chez Fernand Hibert, par exemple, qui écrit « Zoun chez sa nénène », qui veut dire pour dire « marraine » en créole, et que Jacques Roumain va donner une espèce de summum dans Gouverneur de la Rosée. Donc De Pestre, lui, là, il devient plus moderne dans la mesure où il ne va pas écrire de la façon de Jacques Roumain. Alexis a essayé un tout petit peu, mais il a très vite, après Compère Général Soleil, il a arrêté avec cette façon de bousculer la langue. Et c'est l'imaginaire, justement, l'imaginaire créole qui est là, qui va bousculer l'univers du français. Et d'autant De Pestre, juste que ce qui me fascine toujours quand on l'entend parler, c'est-à-dire il a 100 ans aujourd'hui, il a vécu en tout et pour tout 21 ans en Haïti, et l'accent reste encore très créole. Et c'est quelque chose, et Jean avait commencé à le dire avec le vaudou, et notamment ou ce qu'il appelle l'érotisme solaire, et qui est là, mais là c'est fait de manière consciente. Et quand
il l'appelle.
Oui, ouais. C'est-à-dire qu'il l'appelle, c'est vraiment de manière consciente, où on introduit le vaudou avec des notes de bas de page ou des glossaires en fin de volume. Ouais.
Qui existe aussi d'ailleurs chez Segers, là.
Qui existe justement chez Segers. Donc c'est vraiment où il décide de dire que tiens, cet imaginaire créole-là, cette identité créole, eh bien, je vais. Et je crois même qu'il a, à un moment donné, utilisé ce mot-là, on va faire des enfants à la langue française.
Mais d'ailleurs, là, dans l'archive, il disait, finalement, ce rapport qui peut être tendu ou belliqueux, on peut aussi faire l'amour à la langue française.
Voilà, tout à fait. Justement, faire l'amour.
C'est intéressant.
Et un tout petit mot aussi par rapport à ça, c'est l'idée qu'il est aussi de famille, au départ, modeste, où on parle créole dès le départ. C'est-à-dire qu'à la maison, on ne parle pas français. Alors que Jacques Roumain, par exemple, qui va le faire, Jacques Roumain, on parlait français chez Jacques Roumain. Mais de Pestre, il est plutôt d'une famille plus modeste. On parle créole jusqu'à l'âge de 6 ans où il va entrer à l'école, en fait.
Le book club continue. Et à cette heure-ci, dans le book club, on tient un agenda. On relaie ici des événements qui ont attrait à la lecture et au livre. La Fondation Lafayette lance la deuxième édition d'un festival qui s'appelle Poésie et qui mettra à l'honneur les éditions de L'Arche et qui rendra hommage au grand écrivain Pierre Guyotat. La performeuse et poétesse queer Élodie Petit, alias Gorge Bataille, animera des lectures d'auteurs et d'autrices tels que Chouf Shane Haddad, Wendy Delorme ou encore Sarah Mishkin. Trois lectures seront performées au cours de la deuxième soirée avec les autrices Joël Sambi, Sonia Chiambretto et Farorsad. Le festival se terminera par des lectures du volume légendaire de Pierre Guyotat, Histoire de Samora Machel, avec la participation de Pierre Chopineau, Sephora Pandy, Alice Diop, Constance Debré et Clément Ribes. C'est du mardi 17 au jeudi 19 mars dans le 4e arrondissement de Paris. L'événement est accessible uniquement sur réservation. On mettra le lien sur la page du Book Club.
France Culture, le Book Club, Marie Richeux.
Et on termine le book club tous les jours par la recherche des pages musicales. On veut savoir où est-ce qu'il y a de la musique dans les textes. On en a trouvé, directement évoqué, mais on a parlé de beaucoup de musicalité dans l'œuvre de De Pestre. Mais ici, c'est directement évoqué dans un poème en hommage au rock'n'roll. C'est plutôt à la fin de cette œuvre complète. Je cherche son titre exact. Ça s'appelle « Psaume d'adieu au rock'n'roll 2004 ». Seigneur, sans un nuage gris au cœur ni une larme à l'œil, à mon tour, je raconte l'aventure du fils jumeau de Gladys Presley. À bord de mon blues et de mon gospel, j'ai fait le voyage de Tupelo. Ma tendresse est allée toucher le bois de sa maison d'enfance au Mississippi. Le vieux bois d'orme n'a oublié ni les jeux, ni les rêves d'Elvis enfant, ni ceux de son propre passé dans la forêt. Bien des années plus tard, j'ai accompagné le jeune Elvis à l'enregistrement de son premier 45 tours chez le patron de Sun Records. Ce matin-là, Sam Phillips était en quête de l'oiseau rare blanc du vieux Sud qui aurait dans le sang tout le feeling des humanités noires. En ma présence, ne suis-je pas le sosie de Bill Black, Elvis Aaron Presley enregistra « Blue Moon of Kentucky » and that's all right, mama. Le chauffeur de camion de Memphis n'emmenait pas large dans sa peau le jour de son premier pas tout en haut du grand rêve américain. 7000 disques seront vendus dans la semaine. 4 mois après ce succès, le colonel Thomas A. Parker jette son dévolu sur l'épaisseur du filon. Son savoir-faire d'impresario a 23 ans devant lui pour vendre le métal précieux d'Elvis à la détresse des vivants et des morts du siècle. Échappé de tous les couvents de ce temps-là, les jeunes filles se précipitent en essaim dans sa musique sans savoir nager. L'Amérique, mâle et femelle, s'exalte de ce fils de petit blanc du Sud, doté d'un roulement à billes au bassin. Blue moon, blue moon, blue moon, keep shining bright. Blue moon, keep on shining bright. She's gonna bring me back on my baby tonight. Blue moon, keep shining bright. I say blue moon of Kentucky, they keep on shining. Shine on the one that's gone and left me blue. I say blue moon of Kentucky, they keep on shining. Shine on the one that's gone and left me blue. Merci Louis-Philippe d'Alembert d'avoir été avec nous pour évoquer les œuvres complètes poétiques de René de Pestre parues sous le titre Rage de vivre aux éditions Segers. On peut lire votre dernier recueil qui s'appelle L'obscur soleil des corps. Merci infiniment. On mettra évidemment les informations bibliographiques sur la page du Book Club. Merci beaucoup, Jean d'Amérique.
Merci.
Qu'est-ce qu'on annonce ? On peut lire vos livres à vous. On mettra aussi les titres sur la page du Book Club. Un disque, des concerts ? Bientôt ?
Tous mes livres sont toujours disponibles en librairie et je viens de sortir récemment un EP en collaboration avec un autre artiste qui s'appelle The Plug. Ça s'appelle Poésie Laria. Hey. Poésie de la rue.
Merci infiniment d'avoir été avec nous au son Grégory Wallon, à la réalisation Cassandre Puel. Un grand merci à toute l'équipe du Book Club et à Julie Gastal en particulier aujourd'hui.